La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Cube Radio.
Monsieur Amber.
Là, j'ai pas oublié mon café. J'ai arrêté de prendre le café avant d'arriver au bureau.
Et le bureau, présentement, c'est celui de Las Vegas.
Eh oui, comme vous voyez, ou ceux qui le regardent avec vidéo, vous pouvez voir, je suis entouré des gants de boxe. Mais oui, on est à Las Vegas. Live à Vegas.
J'étais à Vegas après un séjour en Californie. Et on a du stock cette semaine au balado, M. Amber, parce que merci d'être encore à l'écoute, les gens ici au dernier round ou qui nous regardent, comme tu mentionnais, sur le tvasport.ca. Qu'est-ce que ça veut dire, Russ?
Oublie pas, les Las Vegas Golden Knights sont en finale de la conférence Pacifique qui vont aller au Cup Stanley. Fait que, super. J'ai la chance d'aller au match vendredi.
Je sais pas si on va avoir du temps. Ouais. Non. Ouais. Jonathan Marchessault, Mark Stone, Jack Eichel.
Ben oui.
Les Golden Knights. Donc, les Golden Knights sont rendus un peu plus loin que le Canadien de Montréal, Russ, avec des billets de saison.
Ben oui, avec mes billets de saison, exact.
Mais ça va être un balado un peu spécial, Russ, dans certains, comment je pourrais dire, par rapport avec le résultat de la fin de semaine dernière, le combat qu'on avait mentionné, le fait qu'il était dans le coin du champion John Beck face à Steven Butler. On va également parler un peu plus tard. On doit mettre la table pour Lomachenko. C'est la raison pourquoi tu es à Las Vegas. Tu vas travailler avec Lomachenko contre Devin Haney pour tous les titres à 135 livres, qui est vraiment un des gros combats de l'année qui aura lieu samedi au MGM Grand. Mais par rapport au week-end dernier, il y a tellement de différents points de vue par où commencer. Je sais pas comment aborder. Il faut faire attention aussi parce que j'ai été surpris par rapport à la réaction, je te dirais. J'avais oublié pendant quelques instants, c'était quoi les réseaux sociaux? Je suis pas quelqu'un nécessairement qui est autant fixé sur les réseaux sociaux comparé à d'autres. C'est quelque chose d'important. Il n'y a aucun doute là-dessus de nos jours, mais j'essaie de pas trop être sur les plateformes parce que de temps en temps, je me souviens de ce que j'ai vu en fin de semaine en me disant, il y a vraiment beaucoup de gratuité puis il y a vraiment des fois de l'ignorance qui se propage par rapport à des résultats, par rapport à des faits. Donc, on veut décortiquer beaucoup de choses. La bourse de 75 000, lancer la serviette, c'est quoi le résultat, etc. Donc, il y a plusieurs choses à adresser pendant le balado. Donc, on vous demande d'être patient. Mais Russ, première des choses que j'aimerais adresser avec toi, c'est John Beck.
Oui.
Grand chose qui a dû te surprendre par rapport au résultat en termes de sa puissance et le fait que tu mentionnais la semaine dernière que c'est quelqu'un qui peut tester rapidement un adversaire.
Comment qu'on peut dire, je cherchais le mot, il s'en vient comme un des boxeurs le plus évité, le champion le plus évité dans le monde de la boxe. Il apporte pas un gros profil. Mais il est gaucher, cogne très dur, il est grand, il est habile, il est talentueux, il a un bon menton, il veut gagner, il cherche le knockout, c'est un boxeur de l'action, il va être très, très difficile à battre, ce gars-là.
Ouais. Et par rapport aussi au fait que tu regardes le reste des champions des titres de 160 livres, penses-tu qu'une performance comme ça va faire en sorte que ESPN va le pousser vers un combat encore plus important ou ça va être difficile parce qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi l'appui d'apport de la communauté de boxe, combien de gens est vraiment intéressé par rapport à dépenser des billets? La foule était dessus. Il y avait quand même une bonne foule dans les estrades à Stockton?
Non.
Non, hein?
Non, il n'y avait pas une bonne foule. La plupart des gens qui étaient là, ils étaient là pour Gabe Flores, qui est un boxeur local. C'était son retour chez eux. Mais, tu sais, écoute, tu sais comment c'est difficile de vendre une Kazakh contre un Canadien dans une communauté latino pleine à Stockton où le héros de la place s'appelle Yaki Lopez. Ouais. Un des plus grands de l'histoire de la boxe, puis vous pouvez garder, si vous avez jamais entendu parler de Yaki Lopez, c'est quelqu'un qui s'est battu 5 fois pour une titre mondial. Puis il était à l'époque où la division des mi-lourds était le meilleur de tout le temps. Fait que, en tout cas, c'était très difficile de vendre ce combat-là, mais non, il n'y en avait pas autant de monde que ça.
Bon. Et on sait que John Abeck, lui, veut aller vers tous les titres possibles à 160 livres. Il parle de même des noms comme des Charlos et Demetrius Andre de ce monde. Mais pour l'instant, on va voir, parce que la division en plus, des poids moyens, c'est pas nécessairement la division la plus sexy présentement du monde de la boxe. Mais pour ce qui intéresse beaucoup de gens ici au balado qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est sûr, c'est l'aspect québécois, l'aspect canadien, que Steven Butler avait sa deuxième chance dans un championnat du monde samedi dernier, négligé à 9-1. Je pense que des fois, les gens l'oublient. Mais après le résultat, quand une défaite de cette manière, qui est rapide et d'une façon spectaculaire, c'est sûr que ça va amener beaucoup d'attention et ça amène des critiques de toutes sortes de côtés. Puis je pense qu'il y en a qui peut-être justifiés dans certains cas, d'autres un peu moins. Donc là, Russ étant dans le coin de John Abeck, tu as également une perspective un peu différente. Donc, juste aller un peu de première note avec mon opinion là-dessus. Seulement, je te lancerai la balle un peu plus rapidement, mais juste par rapport à les critiques que je peux entendre également de mon côté, parce que j'ai vu un peu aussi l'élément du fait que j'analyse des combats d'Eye of the Tiger sur Punching Grace sur TVA Sport. Je l'ai entendu souvent. Tu es un cheerleader pour Eye of the Tiger, tu es un vendu d'Eye of the Tiger. Faire attention, il y a une personne que je suis vendu pour puis qui signe mes chèques, c'est M. Tyra Sandberg puis Rival Boxing. Donc,
really?
Pour Russ puis Rival, Eye of the Tiger, je vais quand même dire ce que je pense par rapport aux boxeurs ou à l'écurie, en gardant quand même un jugement aussi puis le respect pour le
professionnel. Mais Matt, tu peux même faire ça avec moi. T'sais, avec le respect, puis cheerleader, je veux pas que tu sois un cheerleader pour moi non plus. Quand tes opinions, puis les faits, puis le critique que t'apportes d'une place de logique et de information, jamais je vais refuser ça. T'sais, et c'est important de ne pas être un cheerleader. J'aimerais te lire quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui de nos amis en Angleterre, et j'ai trouvé ça très pertinent par rapport à qu'est-ce que tu as dit par rapport à les réseaux sociaux, puis comment le monde peut être un peu gratuit, si tu veux, ils donnent leur opinion gratuitement, puis ils font du bashing, puis tu sais, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent parce qu'ils ont la capacité de le faire, parce qu'ils ont un téléphone en main, puis ils sont capables de taper qu'est-ce qu'ils veulent. T'sais, n'importe quelle pensée qui rentre dans leur tête, ils décident de le mettre ça pour que tout le monde le voit. Puis je vais essayer de faire ça la traduction le plus possible. Un fait, c'est de l'information moins l'émotion. Une opinion et de l'information avec de l'expérience. L'ignorance est une opinion sans information et stupidité, c'est une opinion qui ignore les faits.
Je pense que tu m'as perdu après la deuxième phrase, Russ, mais ça a l'air d'être bien dit, ton petit texte.
J'espère que J'espère. Parce que j'ai trouvé ça très, très brillant. Tu sais, puis toutes ces choses-là, le monde le fait. Ils donnent leur opinion, ils négligent les faits, puis ils donnent leur opinion. Même si on dit 2 plus 2 égale 4, non, ils disent non, moi j'ai vu ça, puis c'est 5. C'est pas ça.
Attends, faut aussi faire attention. Il peut y avoir de la critique qui est valide également. C'est ça que là, il y a juste un milieu. Je vais aller un par un avec toi, un peu mettre les pendules à l'heure par rapport, parce qu'il y a beaucoup de tension dans l'heure.
Puis moi, je vais tout le mettre ça clair avec fait. Pas juste émotion, fait. That's it. Oui. Let's go. Only the facts, baby.
La division des poids moyens en ce moment fait en sorte qu'il n'y a pas énormément de candidats niveau potentiel élite. John Abeck était prêt à l'affronter volontairement dans les classements. Steven Butler en était un. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que Butler est niveau élite parce qu'il y a une opportunité d'aller au combat de championnat du monde. Mais c'est une opportunité quand une décision a été prise par Eye of the Tiger de le risque versus la bourse potentielle contre un John Abeck. Ça valait la peine. Il y a personne qui a fait à croire que, à cause que Butler est dans le combat de championnat du monde ou d'autres Québécois qui ont déjà eu l'opportunité dans le combat de championnat du monde, comme des Kevin Bizier face à Kell Brook, qui me vient à l'esprit, ou des Sébastien Demers contre Arthur Abraham. Ça peut arriver. une domination parce que tu es au niveau élite et tu as un combat de championnat du monde, ça ne veut pas dire que c'est un combat 50-50. On est d'accord.
Marc, Matt, tu parles à quelqu'un qui a accepté un combat pour Otis Grant, qui était champion à 160 livres, de se battre contre Roy Jones pour le titre à 175. Oublie le 168. On a sauté de 160 à 175 parce que tu as une opportunité de boxer pour beaucoup d'argent et contre un grand champion. Tu peux pas, dans le cas de Butler ou n'importe qui, refuser, surtout à l'âge, puis avec des années, puis le nombre de combats que Butler a investi dans sa carrière, de dire « Non, 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 je refuse ce combat de championnat du monde. » La seule façon que tu peux faire ça, c'est, admettons, tu es capable d'attirer 20 000 personnes au Centre Bell quand tu boxes contre un plombier. Ah, ben d'accord, t'as pas besoin de l'argent du combat de championnat du monde. Tu peux continuer à boxer contre des plombiers puis des chauffeurs de taxi, puis tu gagnes plus d'argent. OK, d'accord, t'as pas besoin de prendre ce combat-là. Mais tous les boxeurs au monde veulent avoir une opportunité d'un titre mondial et l'argent qui vient avec ça. T'es obligé de le prendre, t'as pas le choix. Puis oui, t'as raison, ça veut pas dire juste parce que t'étais offert un combat de championnat du monde que ça veut dire que t'es aussi bon que le champion. Le gars qui est aussi bon que le champion, normalement, c'est l'aspirant obligatoire, le gars qui est classé numéro un dans sa catégorie. T'sais, ça, c'est le gars qui dit « Ouh, ouh, ça, c'est dangereux », puis tu peux pas l'éviter, puis le gars qui est numéro un, il veut absolument avoir le chance au champion. Donc, oui, on fait de la boxe pour ça. Des gars qui font des 4 rondes, ils veulent aller à des 6 rondes. Des gars qui font des 6 rondes, ils veulent aller à des 8 rondes. Les gars qui font des 8 rondes, ils veulent aller aux 10 rondes. Puis les gars qui font des 10, ils veulent aller aux 12. Puis les gars qui font les 12, ils veulent aller au combat de championnat du monde. That's it. And that's a fact. C'est un fait. On s'entend?
Oui.
Next question.
Oui, parce que c'est un peu ce qu'on appelle dans l'aspect le price fighting en anglais. Donc, il y a quand même un aspect économique qui a rapport utilement parce que il y a d'autres manières de faire de l'argent dans une vie que se faire taper, tu sais, veux pas, sur la tête et sa gueule. Il y a une manière plus facile de faire de l'argent. Donc, pour le risque, c'est éventuellement d'essayer de faire la plus grande bourse possible.
T'as pas un grand temps pour le faire, là. T'as quelques années pour le faire.
T'as pas un régime de retraite comme des sports garantis, non. Donc là, l'autre aspect, après ça, par exemple, les gens, ils disaient à cause que la Californie, aux États-Unis, les commissions athlétiques vont dévoiler l'argent sous les contrats par rapport au temps de signer à la pesée, etc. Et ça a été déclaré 75 000 pour le combat de Butler. Donc là, les gens ont vu ce chiffre et ont dit, donc, c'est vraiment peu pour ce genre de combat. Camille Estefan est allé mentionner sur les réseaux sociaux, c'est une garantie de 200 000. Les gens disent, non, impossible. Il y a 75, c'est ça qui est écrit sur le contrat de Californie. Le reste, c'est pas vrai. C'est incroyable qu'il a perdu pour 75 000. Peux-tu, Russ, clarifier aux gens pourquoi des fois ça l'arrive, que sur le contrat, c'est un montant, mais un autre montant peut être garanti?
Écoute, les gens qui ne connaissent pas comment le métier fonctionne ne devraient pas parler de des choses comme s'ils savent c'est quoi la vérité.
Oui, mais en même temps, on a le droit de les éduquer, je pense, parce que des fois, c'est l'autre chose aussi qu'on fait pas bien. On explique mal aux gens comment ça fonctionne.
Parfait. Puis c'est ça que je vais être en train de faire maintenant. C'est tellement commun dans la boxe professionnelle qu'un montant dévoilé par la commission athlétique, c'est le montant qui est mis sur le contrat, qui est déposé à la commission athlétique. Pourquoi on mettrait un chiffre plus bas? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, quand tu es un étranger qui boxe aux États-Unis, le fisc va garder, ils vont déduire un certain montant pour garder ses taxes en partant. Bon, ils vont la garder. Fait que pour éviter ça, c'est sûr que sur le 75, ils ont pris leur cut, mais s'ils auraient mis tout le montant sur le contrat, ils auraient pris un plus gros somme d'argent de lui qu'ils n'ont pas besoin de prendre. Donc, pour sauver les taxes, c'est sûr qu'ils vont faire ça. C'est quasiment quelque chose de normal qui se fait. Deuxièmement, il y a des frais de sanction que le boxeur est obligé de payer. Donc, le boxeur va payer qu'est-ce qui est sur le contrat qui est déposé avec la commission athlétique. Le balance d'argent qui reste, ça veut pas dire que ça va tout au Butler. Ça peut être des frais pour Eye of the Tiger, pour leur droit sur la promotion qui peut recevoir ça. Ça veut pas dire que c'est obligé d'être toujours pour le boxeur, mais il y a un certain montant d'argent qui va aller au Eye of the Tiger, la compagnie de promotion, ou une autre compagnie, on parle de n'importe quel autre boxeur, qui cette promoteur-là, c'est lui qui va s'arranger pour payer son boxeur. C'est normal. C'est absolument tout à fait normal. Et j'aurais été très, très surpris que le monde peut penser qu'il y a juste eu 75 000 pour boxer dans un combat de championnat du monde.
Bon, ça, c'est clair aussi par rapport aux rumeurs. Puis là, si on vient par contre au combat en tant que tel, le deuxième round, Janabek, le gros uppercut de la gauche que tout le monde a vu à plusieurs reprises, la chute au tapis, Butler se relève, il y a une deuxième chute au tapis pas longtemps après plusieurs coups de Janabek puissant. Et là, je ne sais pas si le monde se souvient, mais Russ, qu'est-ce que Butler a fait dès qu'il y a eu sa deuxième chute au tapis?
Il a frappé le sol.
Exact. Quand quelqu'un frappe le sol comme ça, puis tu l'as mentionné aussi à Jean-Charles et à d'autres émissions, il était quand même une certaine conscience de ce qui se passait. Mais ses jambes, il n'arrêtait pas de bouger d'un bord à l'autre. Et on dirait que donc tu frappes pas le à terre de frustration comme ça, parce qu'il savait que ça avait fait pincer. Il sait que probablement c'est difficile pour lui. C'est pas le mentor de George Chevallo, Stephen Butler. Donc là, il était en train de perdre du temps, puis il savait qu'il était dans une mauvaise situation. Et là, tout d'un coup, ce qui m'a surpris, pour un deuxième round, les gens faisaient comme si Butler était sur le point d'avoir eu une guerre pendant 11 rounds, en train de saigner partout. Et on a laissé à chaque round, let's go, vas-y, faut te faire massacrer. Et là, l'argument, il y a deux choses qu'il faut clarifier. Peut-être que Jack Reese aurait dû arrêter le combat d'avant. Je pense que ça, on est un peu d'accord qu'il a peut-être entendu un peu trop. Il a donné trop le bénéfice du doute par rapport à la troisième chute.
T'as écouté qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ça sur Jean-Charles? Je peux le répéter.
Un coup de point trop. Ouais. Bon. Et toi, tu étais dans l'autre coin, c'est un coup de point trop. Puis là, par rapport, par exemple, au coin, que là, supposément, c'est Rinal Boisvert et l'équipe de Butler allaient arrêter le combat quasiment en même temps que Jack Reese a finalement décidé d'arrêter le combat. Ça, on l'a pas vu à la télévision, peu importe. La seule chose que je veux pas entendre, par exemple, de le contre-argument, c'est que, juste l'arbitre peut arrêter le combat. Ça, faut démentir ça aussi, par contre. Rinal, quelques secondes de plus ou moins, moi, je trouve pas que c'était si catastrophique parce que Butler a perdu quelques secondes plus tard. Il y a eu une différence de lancer la serviette, c'est le deuxième round. Moi, je trouve qu'on exagérait avec ça. Mais faut pas non plus dire que le coin a pas le droit d'arrêter le combat. Ça, c'est pas vrai.
Mais non, c'est pas vrai. C'est sûr, c'est stupide même de dire ça. Puis on a eu une fin de semaine, on a eu, je veux pas dire deux extrêmes, mais dans ce cas-là, exactement, c'était deux extrêmes. T'as eu Rolly Romero, que Tony Weeks, un arbitre expérimenté, qu'il a déjà dans le passé fait plusieurs erreurs dans une ring de boxe, puis personne veut pointer le doigt à lui. Il a fait plusieurs erreurs au cours de son temps dans comme arbitre professionnel. Il a arrêté un combat où le boxeur Barroso.
Il avait battu Ulysse à l'époque, oui.
Oui. Il était en avance d'un point. Il t'arrête un combat où il y avait personne. Les deux, ils échangeaient des coups de poing. Il n'y avait aucune raison pour arrêter le combat. Il arrête le combat. Puis dans le cas de Jack Reese, que Jack, c'est un gars, un peu un gars de la vieille école, tu sais, il va laisser les gars
battre. Smoker un peu dans l'époque, si
hey, vous êtes payé pour boxer, vous saviez comment se défendre. Moi, je suis là pour appliquer les règlements. Puis, tu sais, c'est ça qu'il faisait. Il appliquait les règlements. Il donnait toutes les opportunités. Puis, je lui félicite pour le job qu'il a fait pour donner toutes les opportunités possibles à un gars comme Butler, qu'il connaît pas. Il sait qu'il est négligé. Mais au lieu d'être influencé par les parieurs, par le fiche, par la réputation de son adversaire, Janabek, il a donné la chance au coureur. Il a donné toutes les chances possibles. Puis, checké. Moi, je pense qu'il a fait une bonne job. Puis, la raison pourquoi je critiquerai jamais un arbitre pour pas arrêter le combat, c'est parce que le seul place où le coin a un contrôle de qu'est-ce qui se passe dans une ring de boxe, c'est pour arrêter le combat. C'est le seul pouvoir que le coin a. Donc, si Jack veut laisser continuer le combat, si le coin sont d'accord avec ça, parfait. Si eux autres, ils décident, parfait. Mais un coin n'a pas le droit de dire, « Hey, t'as arrêté le combat trop tôt, laisse-les continuer. Ah, tu veux que je laisse continuer? OK, parfait, laisse-les continuer. » Ça arrive jamais.
Non, mais pour être clair, par contre, donc toi, tu penses que, parce qu'il y a beaucoup de critiques envers le coin de Butler, penses-tu qu'ils ont, dans le fond, fait une erreur de ne pas avoir arrêté le combat après la deuxième chute?
Je vais dire le même que, non, pas après le deuxième chute. Non. Je suis d'accord qu'ils l'ont laissé continuer, mais je vais donner la même réponse. Puis peut-être pour le coin, c'est trop vite parce que eux sont dans le coin puis l'arbitre est dans le ring. Moi, je pense que le troisième chute au plancher n'était pas nécessaire. Le troisième coup. Puis il y avait pas grand temps entre les deux chutes. Le deuxième puis le troisième, il n'y en avait pas le temps. Je pense juste assez pour que l'arbitre peut rentrer dedans puis arrêter. Mais je pense que non, je suis pas sûr qu'il aurait dû arrêter le combat après la deuxième chute au plancher. Surtout à la façon que Butler a réagi. Ses jambes étaient pas là, mais sa tête était là. Puis tu le voyais, il déplaçait, il bougeait. Il essayait d'utiliser l'expérience qu'il avait dans une ring professionnelle, d'essayer de passer à travers la tempête. Il était pas capable, mais il a essayé.
Mais c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu. J'ai été surpris par la réaction de la plupart des. Mais tu sais, il faut faire attention, là, c'est quand même des fois une minorité qui est très bruyante par rapport que c'est un désastre, comment qu'on a attendu de lancer la serviette pour Butler. J'ai vu tellement pire dans la boxe professionnelle de des coins qui ont continué à lancer leur boxeur qui est en train de manger une volée round après round. Là, c'était le deuxième round. Il y a eu quelques secondes d'écart. Jack Reese aurait dû arrêter le combat probablement après la deuxième chute. Le coin peut-être aurait pu intervenir, mais c'est une question de secondes de plus qui n'a pas fait en sorte, moi, je trouve que c'est un coin qui a complètement dormi à sa switch. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Non, moi, je suis d'accord avec toi, Matt. Puis, je regardais le combat, puis il n'y a jamais eu, mettons, 2, 3, 4 coups en ligne. Bang! 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 Qui touchait le cible, là. Tu sais, c'était un coup, puis là, il penchait, puis il courait, puis il déplaçait, puis tu sais, Janibek n'était pas capable de placer le coup fatal sur lui, là, tu sais, pour passer le chaos. Il roulait avec, tu sais, il était assez réveillé, assez bright pour éviter ces coups-là. Mais, tu sais, à un moment donné, il y en a une qui va te toucher, là, tu sais, puis Janibek a lancé plusieurs coups pour finalement eu droit à 2 chutes au plancher. Oui. Quand tu penses à ça, OK? 2 chutes au plancher par facilement une vingtaine de coups de poing, sinon plus, qui étaient lancés, qui n'ont pas touché la cible comme il faut. Donc, moi, honnêtement, je peux pas, tu sais, puis eux autres, ils connaissent leur boxeur mieux. Moi, j'ai déjà arrêté des combats, tu sais, j'ai arrêté le mieux, j'ai arrêté Otis Grant face à Roy Jones. Tu sais, tu choisis ton moment, tu connais ton gars. Eux autres, ils ont probablement cru qu'il y a eu une bonne camp d'entraînement, il réagissait bien, il bougeait, il déplaçait, tu fais qu'est-ce que tu peux, puis il l'a pas eu. Mais le coin, je peux pas dire, tu sais, c'était eux autres qui ont décidé quand est-ce qu'il aurait dû arrêter le combat, mais pour l'arbitre, je le dis encore aujourd'hui, il n'y avait pas besoin de ce troisième shot. Ce coup de poing-là qui a envoyé Butler au tapis la troisième fois était pas nécessaire.
Et là, maintenant, Butler, pour la suite des choses, à 27 ans, c'est certain. Mais je mentionnais la semaine passée, Russ, que dépendamment du scénario du combat, on pensait que Janibek allait gagner. On l'a dit depuis le début. On pensait pas que Butler allait gagner ce upset, ce miracle, si on veut, de 9 pour 1 négligé. Mais dépendamment de l'allure du combat, peut-être qu'il y aurait d'autres opportunités dans des combats importants d'envergure. Là, je pense que ça, on peut oublier ça pendant très longtemps. Mais ceci étant dit, la seule autre chose que je peux voir, dépendamment de la suite des choses, c'est qu'il y a des combats à faire au Canada. Il y a des combats à faire intéressants, pareil, chez les poids moyens, avec un gars comme Butler. S'il voulait des revanches contre Brandon Cook, s'il veut Patrice Volney, pourquoi pas dans le futur? Puis c'est correct, moi, je trouve aussi que tu t'es rendu au combat de championnat du monde, ça n'a pas fonctionné, mais tu peux quand même avoir une carrière, si tu veux, pour quelques années. Ça va être à lui de suivre aussi, si de prendre une décision que peut-être qu'il peut faire autre chose de sa vie que boxer, parce qu'il a déjà quand même subi quelques défaites par knockout. Mais je pense qu'on est d'accord qu'au niveau championnat du monde, c'est terminé pour Butler. Mais potentiellement, il peut continuer à avoir des combats au niveau local, puis c'est pas la fin du monde qui était pourri parce que tu boxes au niveau local.
C'est ça, exactement. C'est ça qui va être difficile pour lui à 27 ans de faire cette ménage dans sa tête, là, de dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, je pense l'opportunité de récupérer, de voir comment qu'il se sent, voir s'il aime ça encore, parce que c'est pas les combats qui dérangent souvent les boxeurs. Qu'est-ce qui les dérange? C'est l'entraînement, les sacrifices que tu es obligé de faire le poids, tu sais, de te priver de manger, tu sais, de crever pour faire le poids, de boxer contre des gars que toi, tu as tout à perdre, contre des gars que eux, ils ont rien à perdre puis tout à gagner. Boxer contre des gars qui veulent faire leur nom sur ton dos. T'sais, ça, c'est difficile. Puis là, ça, c'est les questions que Butler faut qu'il réponde, à quoi qu'il peut répondre à lui-même de s'il veut continuer. Parce que il a juste 27 ans. Sa carrière, logiquement, ne devrait pas être finie à 27 ans.
Non. Puis t'en as eu combien de gars dans le monde de la boxe qui ont perdu par knockout puis ont quand même continué pendant longtemps? Des fois, trop longtemps, ça, on est d'accord. Mais regarde un gars comme Gabe Rosado qui vient juste annoncer sa retraite. Combien de défaites qu'il a à sa fiche, Gabe Rosado, dans des combats importants?
Je pense qu'il y a 9-10 défaites.
Donc, des fois, on verra pour la suite des choses. Peut-être que ça faisait partie également de la pensée de l'amener contre Janibek pour ce montant-là, qu'on a un plan de carrière pour le futur pour Stephen Butler s'il décide de ne plus boxer. Mais je pense qu'il faut faire attention de on peut pas avoir le côté blâmer un boxeur comme Steven Butler qui est prêt à affronter les meilleurs, mais après ça, dire dans le monde de la boxe, personne veut jamais s'affronter. Le monde, il ferait que choisir leur combat. Et lui, il a dit oui contre un adversaire qui était redoutable. Il perd le combat. OK, parfait, mais je ne sais pas. Matt, des fois, les gens veulent plus. Peut-être qu'ils veulent accuser le jugement de Eye of the Tiger, mais Eye of the Tiger, long terme aussi, pense au boxeur, pense pas juste à nécessairement gagner la ceinture, mais pense aussi à l'avenir financier du boxeur.
Eye of the Tiger aurait été négligent de pas accepter ce combat-là pour le montant d'argent qui était offert à eux. Au moins que quelqu'un peut me dire, non, c'est pas vrai, le 200 quelque mille ou whatever qui était offert pour ce combat-là, il aurait pu l'avoir contre telle personne pour un combat beaucoup plus facile. Au moins que tu peux me dire ça, c'est impossible que tu serais négligent de pas accepter cette somme d'argent-là parce que tu es dans ce métier-là pour faire ces genres de bourse de même. Matt, j'ai amené un gars, Otis Grant, 160 livres, contre peut-être le meilleur Milo de l'histoire de la boxe, pour qu'on puisse faire de l'argent. On a boxé toute notre carrière et je me souvenais toujours de qu'est-ce que Otis m'avait dit quand on est venu de New York pour la conférence de presse, puis on a débarqué, puis on marchait à l'aéroport d'Orval à l'époque. Il m'a dit, Russ, j'aurais accepté ce combat-là pour la moitié d'argent. Mm. Et j'ai dit, ouais. Parce qu'on n'a jamais vu ce genre de bourse-là. Otis, il a fait 4 fois plus qu'il avait jamais fait dans toute sa carrière. Il est obligé de prendre ça. Puis notre plan, c'était de prendre cet argent-là. On espérait de bien figurer, au mieux, de bien figurer contre Roy Jones et de retourner à 160 livres puis défendre notre titre. Malheureusement, Otis, il y a eu l'accident de voiture presque fatal que les plans ne sont pas réalisés. Mais imagine, à cause qu'on a accepté ce combat-là, puis avec l'accident qu'il y a eu, l'assurance lui payait beaucoup plus que s'il n'y avait pas eu cet accident-là, ce combat-là, puis il était dans cette range d'argent, salaire que l'assurance lui ont déboursé pour parce qu'il était plus capable de travailler. Donc, tu sais, t'es obligé de prendre ces combats-là, man.
Et juste pour terminer là-dessus, Russ Janabek, par rapport à ton historique de boxeur que tu as travaillé avec, je sais pas comment que la communication, son anglais est probablement limité de ce que je comprends. C'est comment que c'est travailler avec? Est-ce que tu le vois comme étant un talent qui est là, il est ici pour plusieurs années
avec absolument.
Un potentiel de dominer?
Puis communication, il n'y a pas de problème. Des conversations très basiques. Je lui ai présenté à Yaki Lopez. Ils se sont changés. J'ai dit ça, c'était quelqu'un qui s'est battu pour le titre mondial 5 fois. Il a tout compris ça. Il comprend dans les instructions de boxe. Moi, je connais quelques mots en russe que je suis capable de lui dire, que lui il comprenne malgré le fait qu'il est kazakh. Il connaît quelques mots en russe que je suis capable de lui dire pour la boxe. Puis, tu sais, la communication, il n'y a pas de problème. Là, si tu veux commencer à parler du global warming ou de la paix politique dans le monde, là, peut-être son anglais, il n'est pas assez bon pour ça, mais pour parler de boxe. Puis, il a donné son entrevue en anglais. Je ne sais pas si tu as vu à ESPN, il a donné son entrevue en anglais, puis il a challengé tout le monde. Il a dit, all of you, je suis prêt à vous prendre un après l'autre. Let's go. Je veux fighter. Let's go.
Donc, c'est un des bons talents que tu as travaillé avec, il n'y a aucun doute dans ta carrière.
Et ça, c'est mon deuxième champion gaucher de la WBO à 160 livres. Oh, c'est ce qui était le premier.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Russ, il faut terminer le balado sans... on peut pas ignorer le gros combat à Vegas.
Quel combat?
Le talent que tu travailles avec. Lomachenko qui est déjà
été. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben,
livre ben pour oui. livre. Ouais, à oui. 35 ans, un autre gaucher. Et cette fois-ci, il va tenter de regagner tous les titres à 135 livres face au jeune Devin Haney, que tout le monde considère comme le favori en raison qu'il est plus jeune, plus puissant et plus gros. Et là, on arrive Loma dans une situation qui a peut-être très peu été dans sa carrière, négligée. Il y a une défaite face à Teofimo Lopez il y a quelques années, quelques victoires consécutives, mais à son dernier combat, il y a des gens qui trouvaient que Lomachenko commençait à paraître un peu plus âgé. Donc là, on pense quoi, Russ, du fait qu'il est dans le coin d'un Lomachenko négligé? C'est rare que ça l'arrive face à Devin Haney.
Écoute, c'est un combat très, très intéressant, mon ami. J'ai vraiment hâte à ce combat-là. C'est vrai, c'est rare que Loma, c'est le négligé. Oui, tout le monde pense que il a... T'sais, il vieillit, t'sais, comme l'âge a une comme quand, comment tu dis ça en français, en anglais il dit father time. C'est quoi ouais. father time en français? C'est quoi l'équivalent
de ça? C'est une traduction exacte, on dirait que l'âge de vieillard, si on
le,
veut.
Le temps, il est invaincu, hein? Ouais, il est invaincu. Fait que t'sais, beaucoup de monde mise là-dessus, mais oublie pas, c'est que ça, c'est un athlète d'un talent et d'une certaine force mentale. Qu'on voit quasiment jamais là, tu sais, c'est une exception là. Si il tu sais un peu dans la même chose qu'il fait en sorte des grands champions comme Mohamed Ali, combien de fois que Ali il était négligé, mais le fait qu'il était tellement un grand champion, il était capable de tourner les odds en sa faveur puis battre des gars qui étaient supposés de pas être contre là, tu sais. Je pense qu'il y a plus de gens qui ont prédit le victoire ou la défaite, si tu veux, de Mohamed Ali contre George Foreman, puis il y en a des gens qui prédit la victoire de Haney contre Loma. Donc, tu sais, oui, il est négligé, mais il est un athlète exceptionnel, extraordinaire, un once in a lifetime, un fois en vie qu'on voit ce genre de talent. Ça, c'est le Michael Jordan, le Tiger Woods. Tu sais, c'est le exceptionnel personne dans leur discipline, et il a besoin juste d'avoir un autre bon combat en lui pour surprendre tout le monde.
Au moment qu'on se parle, c'est mardi soir à Las Vegas. Le combat a lieu samedi. Est-ce que tu as eu la chance de parler avec Lomachenko?
Ben oui, j'ai passé toute l'après-midi avec lui cet après-midi. On a fait le Grand Arrival, comme qu'il appelle, qu'on arrive à MGM Grand. Puis après ça, tout de suite après qu'on a fait ça, je l'ai reçu, je l'ai accueilli quand il est sorti du limousine. J'étais là, fait qu'il m'a embrassé. On a rentré dans Grand Arrival. Après ça, on a monté à son... Il a fait ses entrevues, puis on a monté à son suite. Puis on a regardé des vidéos que son père avait préparées, puis on a jasé. Puis écoute, il est très relax, très calme. On dirait qu'il est excité pour le combat. Il est souriant. Tu sais, je vois une certaine confiance de le vieux Lomachenko et pas d'un vieux Lomachenko.
Donc, le fait qu'il est quand même négligé 3-1 face au jeune Haney, que plusieurs pensent peut-être, quand on regarde la nouvelle vague des Tank Davis de ce monde, Shakur Stevenson, que Haney en fait partie, Loma aurait peut-être quand même une certaine motivation de prouver, peut-être pour un autre soir, parce que je ne sais pas c'est quoi ses plans pour le reste de sa carrière. Il y a une situation aussi très compliquée avec la guerre en Ukraine par rapport avec le futur pour Lomachenko, mais c'est possible que Lomachenko ne regarde pas juste ce combat-là comme étant le dernier de sa carrière.
Non, on n'a pas jasé de ça. Ça, c'est le seul combat qui est important maintenant, c'est Haney.
Oui, mais il l'aborde pas. On dirait pas qu'il l'aborde comme, OK, c'est ma dernière fois que je vais voir mes fans. Baba, il s'en va là pour gagner, là.
Non, oui, il s'en va pour gagner. Puis, écoute, il est sérieux dans son affaire, man. Ça me concerne, tu sais, la grosseur de Haney. Puis, demande-moi, c'est quoi mon autre, qu'est-ce qui me concerne même plus que ça?
Qu'est-ce qui te concerne, qu'est-ce qui t'inquiète?
Inquiète.
Autre que la réhydratation de Devin Haney.
Oui.
Parce que c'est 36 heures d'escale, si on veut, entre la pesée puis le soir du combat. Et Lomachenko est déjà un petit 135 livres. Donc, c'est quoi l'inquiétude? C'est-tu juste à part le poids, c'est quoi d'autre?
Je vais te répondre en te posant une question. Quelle commission athlétique a la plus grosse historique de mauvaises décisions rendues dans des grands galas, dans des gros galas de boxe.
Probablement celle qui a eu le plus de combats dans leur état d'envergure, parce que sinon, Texas en a eu des mauvaises aussi, mais Nevada, les juges te font peur un peu.
Beaucoup. Parce que quand je pense à le fait que Julie Letterman, malgré que c'est une juge de New York, a donné, je crois, 10 rondes à Teofimo Lopez face à Lomachenko, puis tous les experts de la boxe, que ce soit Andre Ward, Terence Crawford, Roy Jones, les vrais boxeurs, ils ont vu ça. Un combat nul ou peut-être 7-5 Teofimo Lopez. C'était vraiment un combat serré. Selon les feuilles des juges, c'était comme un combat sens unique. Puis je t'ai toujours dit ça, et je l'ai dit par rapport à l'époque, il y a des années quand j'étais, quand j'avais mon émission In This Corner à TSN, j'avais dit ça de la part de Juan Manuel Marquez. C'est qu'il était tellement trop bon, trop subtil pour qu'est-ce qu'il fait dans le ring de la boxe, que les trois personnes autour du ring qui jugent ne sont pas assez éduqués, ne sont pas assez talentueux pour voir qu'est-ce qu'il fait, pour lui donner le crédit de qu'est-ce qu'il fait. Tellement subtil comment qu'il est. Et c'est ça que j'ai peur un peu de Lomachenko. J'espère que...
Je pense aussi, si je me souviens bien, Devin Haney, en tant qu'Américain, tu trouves des fois aussi qu'il y a l'aspect pro-américain des juges qui rentrent en compte également, non?
Garanti. C'est ça. Garanti.
Mais Lomachenko doit lancer des coups, Russ, parce que Devin Haney revient de 2 victoires contre Kambosis. Mais les gens oublient que George Kambosis, il y a une victoire vraiment importante en carrière contre Teofimo Lopez, la soirée de sa vie. Et Haney a gagné 2 victoires consécutives par décision, n'a pas été capable d'arrêter Kambosis. Là, c'est un autre paire de manches, Lomachenko. Mais Lomachenko, je te dis, il doit lancer des coups parce que sinon, Haney aime ça quand il n'y a pas beaucoup de coups lancés dans un round.
Attends une seconde, laisse-moi appeler Lomachenko tout de suite et lui dire que...
Appelle le père de Lomachenko, dis que j'ai trouvé la stratégie.
Cassavant, il y a la stratégie, man. Ah ouais, Cassavant, il y a la stratégie.
Après ce qu'on a vu, il y a des pseudo-experts du week-end dernier, là, je vais faire moi aussi, là, je vais m'aventurer là-dedans.
Eh oui. Quand j'attends un gros combat, grand événement, puis je suis tellement chanceux, Matt, tu sais, j'ai jasé avec du monde ici, puis... quand je pense à ça, tu sais, là, j'ai 62 ans, tu sais, ça fait 44 ans que je gagne ma vie dans boxe, puis à mes débuts, c'était un rêve de travailler, tu sais, des gros combats. Puis hier, je jouais au billard avec quelqu'un qui travaille.
Ta nouvelle vraie carrière?
Ouais, ma vraie carrière. il travaille à MGM, puis c'est un grand amateur de boxe. Puis le propriétaire du salle de billard, il a dit, veux-tu jouer avec lui? Puis il m'a pointé, il dit, c'est qui lui? Il dit, c'est le cutman à Lomachenko. Le gars, il ne croyait pas. Quand j'ai approché, il dit, ah oui, je t'ai vu dans quoi? Fait que là, il m'a demandé, il dit, avec qui tu travailles? Et j'ai nommé le liste de boxeurs avec qui je travaille. Ouais. Et maintenant, je me suis réfléchi là-dessus, Matt. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé avec Vinny Curto, qui m'a donné l'opportunité d'être un homme de coin, puis de devenir un entraîneur et tout, je rêvais à ces moments-là d'être impliqué dans des big fights à Las Vegas, à New York, Madison Square Garden, tu sais, le combat final, tu sais, je rêvais à ça. Et là, je le fais assez régulier, puis jusqu'au temps que ma carrière de billard démarre, je vais continuer à le faire, man. Anyway.
On va te souhaiter une belle victoire samedi, Russ, à Vegas pour Lomachenko. On va pouvoir en parler la semaine prochaine. Es-tu de retour à Montréal la semaine prochaine, Russ?
Ouais, je reviens dimanche.
Parfait.
Donc on va puis je vais faire une annonce, comment tu sais, un scoop ici, là, un exclusif. Okay. Je me suis inscrit au championnat canadien de snooker à Toronto la fin de semaine prochaine. Je suis pas sûr qu'est-ce que je vais être capable de faire, mais je m'en vais là.
Je pense que Cube Radio et TVA Sport envoient une alerte immédiatement à tous les abonnés par rapport à cette nouvelle. On attendait des développements par rapport au repêchage du Canadien, mais finalement, Russ est dans l'air du snooker. Stop the press. Juste un mot peut-être en terminant. Saluer la victoire de Kim Clavel à son combat à Place Belle. Je sais que Russ, tu n'as pas pu voir le combat. Tu étais aux États-Unis. Également, dans la carte de Yvon Michel, vendredi dernier, il y avait eu le combat Caroline Vert qui a gagné face à Emma Gongora. Moi, j'ai suggéré comme ça, Caroline Vert, Martine Vallière-Bisson, peut-être Caroline Vert, Léla Beaudoin, mais ça a l'air que c'est difficile, les combats locaux au Québec. Présentement, c'est pas l'affaire la plus facile à faire. Et pour Kim Clavel, une victoire qui va peut-être lui permettre d'avoir un combat de championnat du monde, une revanche face à Plata plus tard dans l'année. C'est jamais vraiment facile, on dirait, pour Kim, mais c'est toujours divertissant, ces combats. Donc, une belle victoire, même si défensivement, des fois, une coupure ou des coups de tête, quoi que ce soit, on voit qu'il est dans un combat au terme d'un 10 rounds.
Mathieu, y a-t-il une quatrième fille qui est dans la même catégorie de poids? Est-ce que Jessica Camara est dans la même catégorie de poids? C'est plus
lourd. Plus pesante. Ils approchent de 140 livres, là, dans certains combats même, 135 à la limite, mais.
Et eux autres, ils boxent à 130, 135?
Il y en a 126, 130, mais 130, dans le cas de Caroline Vert, c'est à 130 en fin de semaine.
Ouais. OK. Début des années 80, je crois.
Rapidement,
OK. Il y avait Chris Clark, Alan Clark, Ghislaine Deroy, Mario Cusson. Il y avait quatre boxeurs qu'il fallait qu'ils éliminent pour le titre canadien. Puis les deux, ils ont fait un genre de tirage, ils ont fait les matchs ensemble. Puis tout le monde était sur la même carte, ils ont boxé en même temps jusqu'au temps que c'était rendu un combat de championnat canadien des mi-moins. Je comprends pas comment ils voient pas la possibilité de créer un intérêt local, de dire Baudouin, Martin Valliard-Bisson, Léla Baudouin, puis si on peut trouver un quatrième, sinon tu le fais avec les trois, tu fais un genre de tirage au sort, OK, ceux-là vont matcher ensemble, le gagnant va pogner contre qui, puis après ça, le gagnant va reprendre avec lui. Il y a six combats que tu peux faire avec ces trois filles-là. T'sais, je comprends pas comment ça peut pas être magique ces match-ups-là, d'avoir deux Québécois dans le ring qui boxent avec peut-être une éventuelle possibilité de se battre pour un titre mondial. Parce qu'il y en a pas une tonne. Tu vas en avoir besoin des aspirants pour les champions.
Effectivement, Russ. Donc, à suivre, vous pouvez toujours nous écrire sur les réseaux sociaux à Memcaz, MCAZ, Russ Amber sur Twitter. Russ, bonne fin de soirée à Las Vegas.
Ben merci. Puis avant que tu parles, je veux juste faire un petit salut. Dis allô à Mélanie, elle va te saluer. Dis allô, Mélanie. Ben oui, gardez-les là.
Tu déranges les employés de Rival pendant le balado. Donc, une petite apparition de Mélanie sur le balado, le dernier round. Je pense pas que Mélanie ne peut nous parler en français, par contre, sur Russ.
Non, elle peut parler en espagnol, par exemple.
Et voilà. Donc, là-dessus, allez, on se
voit. OK, bon ami. Bye-bye.